carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Dominique Fernandez a consacré de très nombreux livres à l'Italie et à sa culture. Dans ses romans, ses essais, ses écrits de voyage, ses traductions, l'Italie est très souvent présente. L'écrivain né à Paris en 1929, ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé d'italien, écrit régulièrement pour le Nouvel Observateur. Il a publié, entre autres, un dictionnaire amoureux de l'Italie, a traduit des poèmes de jeunesse de Pasolini, a consacré sa thèse et un essai à Pavese. On connaît sa passion pour les arts, la peinture ou l'opéra, sa passion pour le Caravage qui lui a inspiré La course à l'abîme, un autre de ses livres, mais on ne lui connaît pas de livre particulier sur Michel-Ange, figure emblématique des arts de la Renaissance en Italie, dont les œuvres ont marqué l'art en Occident pour des siècles, sans que, visiblement, on puisse mettre un point final à son influence, même aujourd'hui. En témoigne La Pietà de l'artiste Yann Favre, figure star du monde de l'art contemporain, ou encore l'usage des images de la chapelle Sixtine n'a jamais reproduite ou détournée par la publicité. Citons simplement ce que nous avons vu ne serait-ce que cette semaine, la dent nue de la chapelle Sixtine habillée d'un slip rouge reproduit dans un photomontage, isolé d'un cadre doré trônant derrière les têtes des caissières d'un grand magasin parisien, ou bien la reprise d'un des personnages de la fresque de Michel-Ange sur le mur-autel de la chapelle Sixtine, le Jugement dernier, reprise tout récemment dans le Canard enchaîné de cette semaine. Tout le monde connaît donc des images de la chapelle Sixtine. La chapelle est visitée en moyenne par 4 millions de visiteurs chaque année, et à ce rythme, on peut se demander quand même comment la préserver. Elle a été restaurée en 1981 et 1989, si bien qu'on voit mieux couleurs et détails des fresques, situées à plusieurs mètres de distance du visiteur. Son plan est très simple, une salle rectangulaire de 40 mètres de long, 13 mètres de large et 21 mètres de haut. C'est donc sur une voûte en berceau à 21 mètres du sol, avec 12 fenêtres cintrées qui l'éclairent, que Michel-Ange a peint le plafond de la chapelle Sixtine. La commémoration des 500 ans de l'inauguration de la chapelle, le 31 octobre 2012, est pour nous l'occasion de retrouver Dominique Fernandez de l'Académie française pour parler d'art de Michel-Ange et des fresques de la chapelle. En préambule, quelques rappels historiques. Michel-Ange est né à Florence en 1475 et il est mort en 1564. Quant à la chapelle Sixtine, elle doit son nom au pape Sixte IV qui l'avait faite construire au cœur des palais du Vatican en 1483. Ses murs avaient été peints à fresque par d'illustres artistes tels que Botticelli, Ghirlandaio ou Perugino, dit le Pérugin. Quelques décennies plus tard, les papes Jules II et Clément VII, à quelques décennies d'intervalle, commande à Michel-Ange la décoration de la voûte de la chapelle, puis du mur de l'autel. Tous les trois se connaissaient depuis leur enfance florentine, avant leur destin exceptionnel d'artiste pour l'un et de pape pour les deux autres. De 1508 à 1512, les peintures des fresques du plafond de la chapelle occupèrent Michel-Ange jusqu'à l'épuisement. On retient de l'œuvre sa maestria pour répondre au programme iconographique demandé par les papes, réalisant une synthèse entre philosophie antique et philosophie chrétienne. Il choisit 9 scènes de la Genèse en position centrale, parmi lesquelles la création d'Adam, la création d'Ève, la tentation, la chute d'Adam et Ève ou le déluge. Celles-ci sont entourées en alternance de représentations de prophètes et de sibylles, d'ancêtres du Christ ou d'autres personnages de l'Ancien Testament. J'accueille aujourd'hui au studio de Canal Académie Dominique Fernandez pour ce beau sujet. Dominique Fernandez, dans le dictionnaire amoureux de l'Italie, à Michel-Ange, c'est un Michel-Ange musicien, ou pas vraiment musicien, que vous nous présentez, très loin de la chapelle Sixtine, très loin du peintre.
Oui, parce que Michel-Ange était universel, il est surtout connu comme peintre et sculpteur, Mais c'est un grand architecte, hein, il a fait la coupole de Saint-Pierre. Et c'est un grand poète, très difficile à traduire parce que c'est un langage un peu hermétique comme à l'époque, mais c'est admirable, ces poèmes d'amour. Et puis c'est aussi un musicien, comme Léonard de Vinci, tous ces grands hommes de la Renaissance savaient tout faire, enfin, il avait du talent dans tous les domaines.
Alors Léonard de Vinci savait très bien jouer du luth, et d'après ce que j'ai découvert dans votre dictionnaire, Michel-Ange était beaucoup moins versé dans la musique et faisait presque un peu la tête quand on lui emmenait ses poèmes chantés.
Il y a un tableau de Véronèse aussi à Venise, où on voit Titien, il y a un quatuor avec Titien au violon, Véronèse au violoncelle, Tintoret, je ne sais plus quel instrument, et un quatrième, et Bassano à la flûte, enfin, tous les artistes savaient faire de la musique à l'époque.
Alors, revenons à Michel-Ange. Je voulais juste vous demander ce que vous inspirez cet autoportrait de Michel-Ange.
Ah, c'est un homme ravagé, là.
Oui.
On lui avait cassé le nez, il avait une bagarre avec son rival dans sa jeunesse. Puis c'est un homme torturé. Enfin, ses poèmes, c'est des poèmes d'amour pour des jeunes gens, très torturés. C'est un homme angoissé. Et sa dernière œuvre, La Pietà Rondanini, qui est à Milan, qu'il a fait à 89 ans, c'est comme la Vierge et l'Enfant, c'est comme deux bouts de bois, deux troncs d'arbres. C'est réduit à une espèce d'os. Enfin, c'est tout à fait extraordinaire.
Et à l'opposé de la Pietà qu'il a réalisée à moins de 25 ans.
Enfin... Oui, qui est déjà plus. Mais il n'a jamais été un homme heureux. Hein. C'est pas un Titien, justement. C'est un homme très angoissé.
Quelle place occupe Michel-Ange, justement, dans votre panthéon personnel des peintres?
Alors moi, je ne dirais pas que celui que je préfère. Je préfère Caravage, par exemple, pour d'autres raisons. Mais je crois que c'est le plafond de la Sixtine. Je crois que c'est quand même le plus grand exemple de peinture que l'humanité ait jamais réalisé, je crois. C'est admirable. C'est une lecture infinie, il y a une construction symbolique, tous les détails sont admirables. C'est un effort colossal qui lui a pris 4 ans, vous savez, à faire. Il a fini en 1512, donc il y a exactement 500 ans. Il a commencé en 8. Et il a fait un poème après, où il dit « Je suis tout cabossé, bossu, le résultat ». Parce qu'il était, à cette époque, bon, il y avait les échafaudages, mais c'est quand même moins perfectionné qu'aujourd'hui. Donc il était couché sur le dos... Même physiquement, c'était un travail.
Physiquement, c'était
fabuleux.
Épuisant.
Et puis, c'est vraiment le génie. Alors, vous savez, il y a peu de gens, on peut dire, qu'ils ont du génie. Génie créateur.
Vous dites que c'est la Renaissance, dans vos différents écrits. Et c'est un temps des génies. Un temps des génies et une ère de synthèse. André Chastel avait bien,
ça. On applique le génie aujourd'hui abusivement.
Oui.
Mais je crois qu'on peut dire ça de Shakespeare, on peut dire ça de Beethoven. Il y a des gens qui à la fois renouvellent le langage, qui ont la puissance aussi. Parce qu'il y a des artistes qu'on préfère. On peut préférer Nerval à Hugo, par exemple. Mais je pense que Hugo a du génie. Enfin, moi, j'admire beaucoup Hugo. C'est vraiment le génie qui sort de lui une création infinie, infatigable. Et d'autres qui sont... Mais on n'est pas forcé de les préférer. Des fois, ils vous impressionnent ou il y en a trop, etc. Mais Michel-Ange, je trouve, est à la fois un génie qui a la puissance et la finesse dans les détails.
La finesse dans les détails. Tout le monde a à peu près quand même mémorisé l'ensemble de la chapelle Sixtine. Je ne sais plus, c'est 400 ou 500 personnages, des dimensions impressionnantes. Il y a un détail qui, justement, vous venez d'évoquer le mot, a retenu...
Mais c'est par hasard, moi, j'ai eu la chance, c'est-à-dire qu'on a restauré, c'est très important, la chapelle Sixtine. C'est les Japonais qui ont financé ça. Ça a pris des années, 10 ans, je ne sais pas. C'était dans les années 80-90. Et j'avais un ami qui était attaché culturel à Rome, un Français, qui a eu le permis, enfin l'autorisation de me faire monter sur les échafaudages quand c'était en cours de restauration. Échafaudage très haut, parce que je ne sais pas combien il y a de mètres, mais c'est très haut.
21.
Donc, quand on est en haut, on peut toucher du doigt le plafond. C'est ce que j'ai fait. Et c'était la séquence vers la fin, au-dessus de l'autel, où Dieu sépare la lune du soleil. Et il y a le soleil au milieu, qui est un demi-sphère de feu.
Un jaune orangé.
Et alors, il se trouvait que la moitié avait été restaurée déjà et l'autre n'était pas encore restaurée. J'ai eu vraiment un éblouissement parce qu'il y avait beaucoup de discussions avant. On disait, on a tort de restaurer, etc. J'ai vu que la partie non restaurée était toute grise et moche, il faut le dire, enfumée par les cierges, par le temps, par l'incurie, tout ça. Et que la partie restaurée, très bien, révélait un Michel-Ange coloriste qu'on niait autrefois. C'est quand j'étais étudiant, donc avant, on disait que Michel-Ange était un peintre sculpteur, c'est-à-dire camailleux presque, qu'il faisait des peintures grises parce que c'était surtout un sculpteur. Et ça, c'est uniquement parce que on ne voyait pas son vrai travail. C'est un coloriste extraordinaire qui même annonce les maniéristes, vous savez, les pantons.
Qui vont suivre.
Qui ont les couleurs très crues, très vives. C'est beaucoup plus vif que ses contemporains, que Raphaël, par exemple. C'est extraordinaire. Et ça a été révélé par cette restauration. Alors, je me rappelle l'émotion. Et on voyait le pouce de Michel-Ange, on voyait la trace de pouce, enfin les doigts, sur le... C'était vraiment extraordinaire. Moi, j'ai mis discrètement, sans appuyer, la partie non restaurée. Je me dis, c'est la première fois que j'étais en contact, si je puis dire, avec le génie comme ça. Et en plus, c'est très beau parce que j'ai vu tout le reste aussi, toute la série, de près. C'est-à-dire comme, même plus bas que ce plafond ici, vous voyez, c'était à hauteur d'homme, à deux mètres. C'était à deux mètres, presque à hauteur d'homme. Il n'y avait pas besoin de se désarticuler comme en bas, on a le torticolis très vite.
Enfin, oui, bien sûr, en bas même pour voir.
Enfin, ça, ou... Et puis, c'est très loin, il faut des jumelles, tout ça. Là, on le voyait ça. On avait la familiarité du peintre, c'était un grand moment.
Et vous avez vu le tracé avec la main?
Oui, oui, on voit très bien. On voit très bien comment.
Alors ça a dû être une émotion terrible de voir ces couleurs. En plus, vous avez eu la chance de voir le soleil à moitié.
Oui, justement, il était à moitié le soleil. Il y avait la moitié non restaurée qui n'était pas un soleil du tout, qui était une boule grise et l'autre une boule de feu. C'était extraordinaire.
Parce qu'aujourd'hui, quand on pénètre dans la chapelle Sixtine et qu'on voit non pas le plafond, mais le mur autel, le jugement dernier, on est quand même ébloui par les bleus aussi, là.
Oui. Ça, c'est autant. Ça, on va en parler après.
On va en parler après,
c'est
bien
très
sûr.
Différent. Il a fait ça, je sais pas, 40 ans après. Et autre chose, je voudrais dire, c'est que pour
l'histoire
de restauration, il y a ce qu'on appelle les lunettes sur le côté.
Oui.
C'est les triangles avec les ancêtres du Christ. Ante gratiam, hein, ce qu'on appelle. Parce qu'il y a ante gratiam, sub gratiam et dans la grâce. Parce que c'est tout symbolique, tout ça. Et on arrive à la création de l'homme, tout ça. Et les ancêtres du Christ, donc, qui n'avaient pas, qui étaient dans l'obscurité, et Charles de Tolnay, qui est un grand historien d'art, mais immense, hein, je crois qu'il était hongrois, et qui est le grand spécialiste, j'aime pas ce mot, parce que spécialiste, ça fait jargon.
Oui, mais bon, fait... on l'utilise.
Bon, l'homme qui a le mieux compris, qui a déchiffré le symbolisme, il avait écrit, toute bonne foi, il y a 50 ans, hein, que les personnages étaient gris dans les lunettes pour montrer qu'ils n'avaient pas la grâce, qu'ils étaient dans un monde obscur. Or, depuis qu'on a restauré, on voit qu'elles sont éclatantes, les couleurs sont éclatantes. Donc il faudrait que... Ben, il n'est plus là, malheureusement, il est mort il y a longtemps, mais... Vous voyez, même les historiens pouvaient faire des erreurs à cause de l'enfumement, de la saleté de cette Sixtine.
Et puis parce que c'était le seul moyen d'éclairage pendant les siècles.
Et puis le temps,
puis
vous avez dit... Combien vous avez dit?
500 ans, 5 siècles.
500 ans,
cinq
vous siècles. Savez, mais ça suffit, la poussière s'incruste.
Avec ces fresques... De la chapelle Sixtine, celle du plafond, on a une véritable mise en scène visuelle, une composition grandiose. Est-ce que on pourrait dire qu'il invente là une image choc? C'est une façon un peu familière de présenter ça, mais il y a une mise en scène visuelle,
oui,
dans la composition. Les couleurs n'apparaissaient pas autrefois, mais bon, maintenant elles les révèlent et elles confirment ça, mais on est vraiment dans un effet visuel, dans une mise en scène visuelle.
C'est une espèce de bande dessinée géniale, hein, évidemment. Et c'est tout le plafond central, c'est l'histoire, enfin depuis la, ça commence par l'histoire de Noé, et
c'est
on arrive...
C'est neuf scènes de la Genèse.
Ouais. Voilà, et à mesure qu'on fait ça à rebours, en quelque sorte, parce que...
Exactement, il y a un enchaînement particulier, vous pourriez nous l'expliquer?
Oui, parce qu'on commence par...
Quand est-ce qu'on arrive? Quand on arrive, on commence par quoi?
Je crois que c'est l'ivresse de Noé.
Exactement.
Puis il y a le déluge, puis il y a une scène là, au milieu, enfin il y a le péché originel, Adam et Ève chassés du paradis... Puis on remonte, on crée la femme. Puis on remonte, on crée l'homme. Et ça, c'est la plus connue, évidemment, parce qu'il y a Adam nu, couché, et que Dieu crée de son doigt. Adam tend sa main, et Dieu aussi, mais il ne se touche pas. Pour montrer que ce n'est pas une création matérielle. C'est la plus célèbre, évidemment, mais elle est toujours aussi belle. Et ensuite, il y a la création de la terre, de la séparation des eaux, la terre et la lune, et le chaos originel. Donc c'est à rebours.
C'est à rebours pour partir, voilà, comme le visiteur rentrant dans la chapelle, voilà, on va dire, du monde terrestre,
voilà, arrive,
par rapport à Noé, avec les problèmes,
voilà,
dans lesquels il ne faudrait pas tomber, pour s'éloigner de tout ça, comme un cheminement jusqu'à la découverte de la lumière.
Et alors, sur le retour du plafond, il y a les Sibylles et les prophètes.
Sibylles, prophètes, les personnages dont vous
donc, qui ont annoncé,
Christ.
Et dont l'agitation croît à mesure qu'on se rapproche de l'autel. Très intéressant, parce qu'au début, ils sont placides, parce que c'est tellement loin. Et alors, c'est amusant, il y a une Sibylle qui est myope, il y a une qui est presbyte, il y a une qui tient son lit comme ça, l'autre qui est de loin. Et à mesure qu'ils s'approchent de l'autel, ils s'agitent, enfin, ils sont, il y a le vent de la révélation qui les agite. Et puis, troisième chose, bon, il y a les lunettes, mais entre les tableaux, entre un tableau sur deux, ils sont flanqués là, d'une invention spéciale de Michel-Ange, qui est très personnelle, qui sont les ignoudi.
Alors, racontez-nous les...
Alors, chaque tableau, par exemple, l'ivresse de Noé, la création de la femme, la création du monde, vous avez au coin, parce que ce sont des grands tableaux, c'est très grand tout ça, quatre jeunes gens nus qui sont extraordinaires et qui est la marque personnelle de Michel-Ange. Adorait les garçons. Ses poèmes d'amour, vous savez, sont adressés en particulier à Tommaso dei Cavalieri. Et c'est très amusant. Vous savez que c'était une grande liaison, hein, d'amour. Il y a un poème où il dit « Sono prigioniere d'un cavaliere armato ». Je suis prisonnier d'un cavalier armé. C'est un jeu de mots, parce qu'il s'appelait Cavalieri. Et vous savez que les poèmes sont posthumes. Et le petit-neveu de Michel-Ange les a publiés, je sais pas, au début du 19e, il les a caviardés. Il a dit « Je suis prisonnier d'un cœur ardent ».
Vous voulez faire un jeu de mots ?
Donc, enflammé. Prisonnier d'une quoi ? Ça lui paraît osé, alors que ça, c'est merveilleux. Moi, c'est très audacieux. Je suis prisonnier d'un cœur armé, ça veut tout dire. Mais je suis prisonnier d'un cœur enflammé, c'est grotesque. Mais pour dire à quel point il était subversif, Michel-Ange. Aujourd'hui, on l'a admis, il est partout, il est même dans les publicités, mais il a longtemps été subversif. On va voir après pour le jugement dernier. Et donc, Zignouli, c'est quand même la marque. C'est son amour des jeunes gens, parce qu'ils n'ont rien à voir, ces jeunes gens nus dans ce plafond biblique. C'est vraiment il s'est fait plaisir. Enfin, ils sont d'une beauté inouïe.
C'est une métamorphose des anges ou pas, là ?
Pour justifier ça, il a dit que c'était des anges. Mais quand vous regardez, il n'y a pas d'ailes.
Non.
Et ils ont des bandeaux dans les cheveux. Alors le bandeau, c'est plutôt grec qu'angélique. C'est comme beaucoup plus païen. C'est une allusion au monde des faibles.
C'est cette synthèse dont on parlait tout à l'heure,
oui,
entre le retour de l'influence grecque et de l'histoire grecque et de l'Antiquité,
oui,
dans la Renaissance.
C'était Renaissance du monde antique. Renaissance du monde gréco-latin.
Michel-Ange, à vos yeux, a merveilleusement réalisé cette synthèse ?
Ben oui, ça c'était son...
De façon...
Les statues aussi, c'est vraiment là...
Très accompli.
Il était à la fois chrétien, comme tout le monde à l'époque, on ne peut pas nier ça, mais en même temps, païen.
Est-ce qu'on sait quelque chose de sa foi ou de son rapport à la religion ?
Mais c'est
personnel, on ne sait pas ça.
Tout le monde était chrétien à l'époque.
Oui,
on se posait
bien
pas
sûr,
la question.
Évidemment,
c'était même
mais...
avant le protestantisme, il n'y avait même pas de schisme.
Mais il n'a pas fait de poème à la gloire de Dieu ?
Non, non, pas du tout. Non, non, il était chrétien, il travaillait pour les papes, mais parce que tout le monde travaillait pour les papes, c'était eux qui avaient l'argent, qui faisaient les commandes, mais il n'était pas spécialement... il a fait des statues de Brutus, de David, des statues tout à fait avec des sujets anciens,
antiques,
païens,
rien.
Oui.
Enfin, j'avais cru comprendre qu'il en avait fait assez peu, justement, par rapport à tout ce qu'il a fait comme sujet religieux, mais ça s'explique très bien.
Il a fait trois Pietà.
Voilà.
Ben, les esclaves, vous savez, bon, font partie dont deux sont au Louvre,
oui,
qui sont admirables, qui sont aussi la beauté virile. En principe, c'est des esclaves pour le tombeau de Moïse, enfin, pour le monument à Moïse, là. Mais on voit très bien qu'il y avait un sujet obligé, mais il s'arrangeait pour mettre ses fantasmes, ses passions dedans.
Vous parliez des nus, là, tout à l'heure,
oui,
de ces jeunes
gens.
C'est
les corps nus.
Mais c'est un
nu. En tant que sculpteur, c'est des nus extrêmement suggestifs, érotiques, enfin, très inouïs. Avec des deux esclaves du Louvre, là, il y en a qui tendent comme ça, il y en a qui se pâment.
Que représente le nu masculin pour Michel-Ange ?
Mais ça représente tout ce qu'il aimait. Ça, il le dit, pas seulement pour lui, mais je veux dire, tous les artistes, surtout les Florentins. Je veux dire, c'est une civilisation marquée par une très forte homosexualité. Contrairement à Venise, Venise était au contraire hétérosexuelle, il ne fallait pas être masculin parce qu'il était presque tous des hommes. On exaltait la femme, Titien, Véronèse. Et à Florence, c'était vraiment le Donatello, c'était la beauté idéale grecque. Enfin, renouvelée, évidemment.
Quel sentiment vous inspire les fresques du plafond ? Quel sentiment, on parle de grâce ?
Ah, la grâce, non, le plafond de la Sixtine.
Oui.
Non, ce qui frappe quand même, c'est quand même la puissance d'abord. Je veux dire, c'est le côté génie, c'est le côté l'ampleur, l'ambition du projet, là. C'est suffocant, enfin. Quand on pense à ce qu'on fait aujourd'hui, on met une feuille de salade par terre, on nous dit que c'est de l'art, vous voyez. Et là, c'est quand même... C'est gigantesque. Il a fait ça tout seul. Parce que c'est important, c'est pas un atelier. Alors que souvent, Titien, Véronèse se faisait aider par des... Il n'y a pas eu d'aide, là. Il a peint tout lui-même, de sa main, pendant 4 ans. Vous vous rendez compte? C'est inouï. Alors, donc, il y a d'abord l'impulsion de puissance. En plus, quand on le voit d'en bas, ce qui est, c'est fait pour être vu d'en bas. On voit pas la finesse. Moi, j'ai eu de la chance de monter, mais ça n'a pas été créé pour ça. Quand il faisait ça, il savait que ça serait vu à 20 mètres en dessous. La puissance, c'est pour ça qu'il faut vraiment... Là, les reproductions, c'est quand même très utile. Les diaporamas, tout ce qu'on veut, les gros plans, les zooms, parce que sinon, on voit pas. Il y a trop de choses. Les jumelles, enfin, quand on voit ça, on dit, oh là là, c'est extraordinaire, mais pour vraiment apprécier et savourer à fond, il faut d'autres moyens, il faut détacher les morceaux.
Oui, il faut revenir dessus.
Et... Oui, il faut. Mais là-dedans est sublime, mais on le voit à peine, en bas.
Mais on le connaît grâce à Mais justement, à la photographie qui a permis
une
relecture de toute la chapelle et de la faire connaître dans le monde entier, d'ailleurs. Pour vous, la peinture de Michel-Ange est égale à sa sculpture ?
Ah oui, je crois qu'on peut pas. Oui,
on peut pas dissocier.
Les esclaves, je pense à ces grandes sculptures. Oui, je crois qu'on peut pas. C'est tellement fort. Il y a une telle personnalité que tout ce qu'il fait, c'est marqué. Et l'architecture aussi. Vous savez qu'il était architecte. La bibliothèque de San Lorenzo à Florence est une extraordinaire. On parle pas de la coupole de Saint-Pierre, évidemment. Qu'est-ce qu'il a? Il a d'autres encore choses. C'est le génie, ça.
C'est le génie et un homme en plus qui prenait part au débat politique de son temps, quand même. Hein, s'il a eu des commandes de pape, etc.,
il s'est aussi
disputé avec eux. Donc, c'était une personnalité
exceptionnelle, puisqu'il est mort à 89 ans, ce qui à l'époque était comme si c'était 150 ans aujourd'hui.
C'est pas un personnage qui vous a inspiré pour vos romans? Trop fort.
Vous pouvez pas prendre un personnage trop fort si vous faites du pastiche ou de la guimauve. Vous pouvez pas prendre ni Beethoven, ni Shakespeare, ni Michel-Ange comme personnage de roman, parce que pour faire des histoires, c'est trop fort. On le connaît trop aussi.
Trop fort. La première fois que vous l'avez découverte, la Sixtine, c'était quand vous êtes parti en Italie pour votre
Rome,
étudiant.
On se précipite, que j'avais 20 ans, on se précipite, évidemment. À l'époque, surtout, c'était beaucoup plus facile. Aujourd'hui, il n'y avait pas les Japonais, il n'y avait pas les Russes nouveaux ou anciens, il n'y avait personne. Alors aujourd'hui, la bonne recette, ça ouvre à 9h, il faut arriver à 8h30, il faut faire la queue un peu. Et à 9h, il faut se précipiter vers la Sixtine, c'est-à-dire on fait 2 km de couloir en semant les groupes de Japonais qui regardent dans ces couloirs interminables, il y a tous les cadeaux offerts au pape, les cartes de géographie, des choses sans aucun intérêt. Et vous avez une demi-heure seule dans la Sixtine. Après, c'est insupportable, parce que vous avez des groupes multilinguistes.
Et comme ça fait 40 mètres de long, il y en a beaucoup.
Avec chacun un guide, un parapluie, chacun balance sa langue. Bon, on regarde comme c'est très haut, enfin, on a une demi-heure vraiment de bonheur, là.
Alors, avant de passer à votre version, vos explications et vos commentaires sur le jugement dernier, marquons une courte pause et retrouvons-nous dans quelques instants. Le programme iconographique de la chapelle Sixtine comprenait donc le choix de 9 scènes de la Genèse pour le plafond. D'ailleurs, c'est des choix, même politiquement à l'époque, c'était assez audacieux, comme vous l'avez expliqué, de commencer par Noé pour aller vers la fin. À l'âge de 60 ans, Michel-Ange revient à Rome. Le pape lui fait une nouvelle commande. Cette fois, un autre pape, pas le même.
C'était 30 ans après, à peu près.
Voilà.
Une trentaine d'années après.
En 1535, et lui commande sur le mur de la chapelle Sixtine,
au fond,
tout au fond, une fois qu'on a ouvert les portes, qu'on pénètre, le jugement dernier. Présentez-nous
alors,
cette œuvre.
Ce jugement dernier, on n'a pas idée de ce que c'est aujourd'hui, parce que il a été censuré. Il avait fait le Christ tout nu, qui trône au milieu, et tout le monde était tout nu dans tous les détails, comme Michel-Ange avait fait. Et quand ça a été inauguré devant le pape, le maître des cérémonies a dit: ce décor ferait très bien dans une salle de bain, mais pas dans une chapelle. Et le pape a ordonné, est-ce que c'est celui-là ou le suivant, de détruire toute la peinture, vous vous rendez compte, de détruire. Alors on a sauvé en demandant à un peintre, malheureusement qui restait dans l'histoire, sous le nom de Calzoneur, il Braghettone, Daniel Volterra, qui est un grand peintre, mais qui, malheureusement, il a accepté de mettre des pagnes et des voiles ridicules sur le sexe des hommes. Et quand on a restauré également tout ça, on s'est aperçu que c'était impossible. C'était tellement enfoncé sur le plâtre, on ne pouvait pas le restaurer. Donc on n'a pas pu restituer ce qu'il y avait dessous, parce que c'était détruit carrément. Donc c'est un des grands scandales de l'histoire de l'art, ça. Mais à l'époque, il y avait encore le poids de l'Église, il y avait encore un poids, enfin, il n'y avait pas d'opinion, donc c'était sauvé de justesse, mais c'est tellement contraire à Michel-Ange, l'idée de mettre ses voiles ridicules, comme il y a dans les églises, vous voyez Saint-Sébastien, petit bout d'étoffe qui, par hasard, arrive juste là où il faut, c'est grotesque. Et là, c'est la même chose. Donc on ne peut pas avoir l'idée de... Si, on a des bozzettes, c'est-à-dire des ébauches.
Il y a
des petites ébauches où on voit ce que ça pouvait être. Là, il y a un côté Saint-Sulpice, tout d'un coup. Bon, ça, une chose. D'autre part, on sent qu'il est vieux. Il a 60 ans, ce qui, à l'époque, était vieux, même s'il a vécu 89 ans. Il n'y a plus cet élan, cette juvénilité, évidemment. Les chairs sont lourdes. Il y a un pessimisme. Alors, on a parlé de son pessimisme, qui s'est aggravé, évidemment, avec l'âge. Les déboires, peut-être, les aventures, je ne sais pas, mais tous les corps sont lourds, flasques, déformés. Ils sont plus beaux du tout.
C'est un Michel-Ange un peu plus sombre dans sa peinture.
Sombre et lourd. Enfin, c'est beaucoup moins beau, à mon avis. Enfin, à mon avis, c'est toujours Michel-Ange, évidemment. Alors, il y a d'un côté les damnés, et de l'autre côté, il y a son autoportrait, d'ailleurs. C'est Barthélemy qui s'est écorché, là. Il y a Barthélemy qu'on a écorché, et il s'est représenté lui-même dans la peau, là.
Dans la peau de l'écorché.
Et on voit que c'est une vision tragique de lui-même. Hein. Non, ça reste beau, évidemment. Voilà, c'est le saint Barthélemy qui porte sa peau, qui était terrible. Hein. C'est une peau. Donc, il reste que la peau qui tombe, mais il a fait quand même le masque. Mais ça donne l'impression. Donc, il y a un fond bleu, et puis ces corps qui tournent autour du Christ, qui est au milieu. Enfin, moi, je ne l'aime pas. Voilà. Je trouve ça. J'aime trop Michel-Ange pour aimer ça.
Pour apprécier ce jugement dernier.
Enfin, j'apprécie, c'est beau. On ne peut pas dire que ce n'est pas beau. C'est Michel-Ange, bien sûr, c'est fort. Mais
c'est pas ce
même l'idée, la composition, ben comme le jugement dernier, c'est une idée, moi je sais pas, je préfère la création du monde, vous voyez, il y a un élan là, dans le plafond qui est extraordinaire.
Mais pourtant à l'époque, quand on lui a commandé cette grande fresque, celle-là a fait scandale aussi,
oui.
Par le choix d'un Christ jeune justement.
Oui, jeune, mais tout nu surtout.
Eh oui.
Et comme il est de face, on voyait tout.
Mm-hmm.
Et ça,
ça a fait scandale.
Ça se faisait pas à l'époque.
Est-ce que c'est le nu qui explique le seul scandale?
Oui. Ah oui, le mot du maître de cérémonie, ça irait dans une salle de bain.
Oui, non, d'accord. Mais est-ce
que c'est le nu? On l'a caleçonné, oui. On l'a mis partout, et pas seulement au Christ. Ils ont tous des petits trucs ridicules. Non, c'est le nu. Et ça, d'abord le nu, parce que c'est plus voyant. Après, peut-être on va discuter la théologie, mais...
Alors, quelle est la lecture iconographique classique chrétienne?
Il y a le Christ au milieu, avec la Vierge à genoux qui intercède. Et d'un côté, il y a ceux qui sont élus, qui montent au ciel, comme ça. Et de l'autre côté, ceux qui tombent dans la barque de Charon, qui vont aux enfers. Alors, il a mis ses ennemis personnels. Il a mis... Bon, ce sont des corps, donc les uns montent, les autres tombent. C'est assez confus, faut dire. C'est assez confus. Enfin, il n'y a pas la grâce, il n'y a pas...
Il n'y a pas la grâce du plafond.
Non, absolument pas.
Ni la fraîcheur, ni...
Ni la fraîcheur, même la composition, c'est...
Vous la trouvez désordonnée.
Je ne sens pas inspiré. C'est une commande, il l'a faite. Et on ne peut pas isoler un détail, ce n'est pas très intéressant. C'est pas... Même la Vierge, il a fait des Vierges mille fois plus belles partout.
Comment on peut l'expliquer?
Les artistes travaillaient sur commande à l'époque. L'art libre, ça n'existait pas. Donc, il y avait des commandes qui vous plaisaient, qui vous inspiraient, et l'autre moins. Mais c'est très beau. On ne peut pas dire que ce n'est pas beau, mais c'est... Il y a une chute quand même.
Que vous percevez, qu'on perçoit.
Oui, moi je perçois.
Quel est le jugement dernier dans l'art italien que vous aimez Est-ce qu'il y a une autre peinture?
Non, moi je préfère dans l'art roumain, par exemple.
Oui.
En Roumanie, dans les églises, qui sont peintes dehors, vous savez, parce que
sur
les murs extérieurs. Il y a partout un jugement dernier, c'est un motif obligatoire. Donc c'est plus naïf, mais c'est plus... Là, il y a un côté aussi pompeux, en plus, ça me gêne, vous voyez. Côté pompeux, côté pape, côté...
Quelle était sa relation, quand même, avec le pouvoir? Parce qu'il, même quand on va à Florence, on sent aussi cet art de commande, mais on sent qu'il est dans l'exaltation de ses commanditaires. Oui. Et il y a quelque chose de... Vous parliez de puissance, du côté puissance créatrice, mais il y a aussi quelque chose qui rappelle les puissants ou la...
Oui, mais c'est toujours opposé.
Ça se sent même dans ses corps.
Oui. C'est l'histoire du David qui était vraiment le symbole de la beauté virile, et c'était une statue publique pour une mise sur la place, et quand on a inauguré, le maire a dit « le nez est trop long ». Bon, alors Michel-Ange, forcément, il prend l'échelle, il prend un peu de poudre de marbre dans sa main, sans le montrer, il fait semblant de limer le nez, et il dit, voilà, j'ai raccourci le nez, c'est le même, et on a dit, bravo, c'est très bien. Il s'est fichu complètement la tête de ce crétin. Et alors, il s'est opposé au pape, il s'est enfui une fois jusqu'à Bologne, qui était un résident du pape. C'était Jules II, qui était très, très colérique, qui avait commandé la Sixtine, d'ailleurs. Mais c'était un homme très fier, hein. Il se bagarrait avec ses rivaux. Non, il y a des poèmes comme ça d'attaque. C'est un homme très, très fier. On ne peut pas le marcher sur les pieds, hein. Mais il était quand même très admiré.
Les corps féminins de Michel-Ange sont presque masculins, hein. Ils sont...
Je ne dirais pas qu'il est misogyne, mais franchement, dans...
À part la Pietà...
La chapelle des Médicis à Florence... Et le jour et la nuit, il y a l'aurore et le crépuscule, les deux hommes sont très Michel-Angelesque, il y a deux dames. On voit qu'il n'aimait pas beaucoup, les seins tombent, flasques, auraient besoin d'un implant réussi. On voit qu'il est. C'est pas son idéal.
C'est pas son truc, oui.
Non, c'est pas son truc. Non, la Pietà, c'est différent parce que c'était. La Vierge, c'est une Vierge de la première. C'est pas une femme non plus, la Vierge, c'est un idéal comme ça.
Alors, de Michel-Ange, de son art, vous ne rejetez rien?
Ah non, on ne peut pas rejeter. Il y a des choses qui paraissent le sommet de son art et d'autres moindres, mais c'est ridicule. D'ailleurs, on ne peut pas se permettre, d'ailleurs, de toute façon. Vous êtes vraiment en présence de la puissance créatrice, absolue. Ça, c'est très rare. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui donnent cette impression. D'ailleurs, je crois qu'en Italie, je crois que c'est le seul.
Léonard de Vinci?
Non, non. C'est l'esprit, c'est l'intelligence qui frappe, c'est la recherche. Mais. Cette peinture, c'est pas génial. C'est très bien. C'est des recherches techniques, scientifiques. Mais pour moi, c'est une défense qu'on appelle génie. Pour moi, c'était une force incompressible qui jaillit et qui crée des choses extraordinaires.
Quand même, Léonard, c'est juste avant, mais.
Ah non, c'est pas ma conception de génie. Oui. C'est peut-être plus beau. Je sais pas, c'est autre chose. Oui. Je dis, moi, je préfère d'autres peintres, hein. Je trouve Titien admirable. Dans ce sens-là, à la fois polyvalent, puissant. Je vois pas d'autre que Michel-Ange dans les arts plastiques. Vous avez des grands sculpteurs, des grands peintres. J'ai cité Caravage, que moi je préfère comme peintre, mais ça n'a pas la puissance géniale qu'avait Michel-Ange.
Et que n'ont pas eu à vos yeux Raphaël ou
non, Raphaël c'est admirable. Il y aura bientôt une exposition qui va être très belle, qui était au Prado. Mais tout ça, il y a des peintres extraordinaires. Il y en a beaucoup, des modernes aussi, mais la puissance, il y a quelque chose de presque physiologique, une nature, vous voyez. C'est comme Balzac, enfin, vous voyez, c'est des gens qui... C'est mon Balzac qui est uniquement littéraire. C'est une force, c'est vraiment la création. C'est pour ça que je crois que la Sixtine est aussi plus réussie, parce que c'est une apologie de la création. C'est donc lui-même, c'est la création du monde. Le soleil, la terre, les eaux, les fleuves, l'homme, la femme, tout ça, c'est la création, et ça le porte, parce que c'est un créateur. C'est un créateur. C'est un dieu, enfin, un dieu qui crée. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire. En musique, vous verrez Beethoven, qui n'est pas du tout mon musicien préféré, je m'aime pas tellement, mais il a complètement bouleversé le langage musical, avec une force quand même, ses symphonies, ses quatuors, c'est extraordinaire, même si on les aime plus ou moins.
Ses sonates.
Oui, les sonates, vous sentez le génie créateur, parce que c'est un langage entièrement nouveau et puissant en même temps. Parce qu'il y a des langages nouveaux faiblards. Huysmans, vous voyez, il crée un langage nouveau, mais c'est ridicule aujourd'hui. Là, c'est un langage nouveau, mais avec la force d'un créateur.
Parmi les livres consacrés à la chapelle Sixtine, citons « La chapelle Sixtine révélée », l'iconographie complète d'un chef-d'œuvre de Henri Pfeiffer. C'est une publication des éditions Hazan, sortie en 2009. Il y a évidemment le dictionnaire amoureux de l'Italie de Dominique Fernandez, un très beau livre intitulé « Fresques italiennes du XVIe siècle » de Michel-Ange Ocarache. C'est aux éditions Citadel Masno. Et puis, rappelons également le livre publié chez Bayard, « Dieu et ses images, une histoire de l'éternel dans l'art ». Merci Dominique Fernandez pour cette promenade dans la chapelle Sixtine, une promenade visuelle et dans les arts de l'Italie.